12h30 sur France Culture, le journal Maxime Fayol.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous. La Russie annonce avoir trouvé un vaccin contre le coronavirus. Vladimir Poutine s'est exprimé ce matin sur ce sujet. Il estime détenir un remède assez efficace. Nous verrons avec Claude Brouillot à Moscou quel crédit accorder à cette annonce. La Covid-19 qui est au menu d'un conseil de défense aujourd'hui au fort de Brégançon. Double conseil même, puisque la situation au Niger est également étudiée après la mort de 6 humanitaires français dimanche. Emmanuel Macron souhaite poursuivre les efforts de la France dans la région dans la lutte contre les groupes terroristes. Nous irons à Vilnius également. L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaya a fui son pays pour trouver refuge en Lituanie. Une décision prise seule, affirme-t-elle ce matin, pour se protéger après sa contestation des résultats officiels de la présidentielle en Biélorussie. En France, l'ancienne version du Levothyrox restera disponible jusqu'à la fin de l'année 2021. Une satisfaction pour plusieurs milliers de patients qui subissent de gros effets secondaires avec la nouvelle version du médicament. Explication d'Ilan Malka. Peut-être un espoir d'en finir avec la Covid-19, espoir qui vient de Russie puisque Vladimir Poutine annonce ce matin avoir trouvé le premier vaccin contre le coronavirus. Le président russe précise même que l'une de ses filles s'est fait inoculer le vaccin et qu'il est, je cite, assez efficace. L'annonce est une surprise alors que les tests sur plusieurs autres vaccins sont encore en cours partout dans le monde. Claude Brouillot, vous êtes l'envoyé spécial permanent de France Culture à Moscou. S'agit-il uniquement d'un effet d'annonce de la part des Russes ou bien ce vaccin est-il un vrai espoir dans la lutte contre l'épidémie?
Les autorités russes, guère avares de communication pour l'occasion, avaient très vite comparé la recherche d'un vaccin contre le Covid-19 à la conquête de l'espace, précisant que dans ce domaine-là aussi, ils seraient, je cite, les premiers. Passé le discours grandiloquent, Vladimir Poutine, garant de l'opération, avait mis ensuite la pression nécessaire pour que tout soit irréprochable avant donc cette annonce officielle. Il est question aujourd'hui de centaines de volontaires ayant testé le vaccin, quand au départ les premiers essais, encadrés notamment par le ministère de la Défense russe, n'évoquaient que deux groupes d'une vingtaine de militaires. Selon le département du contrôle étatique de la qualité des produits médicaux, Rosdravnadzor, la dernière phase des essais cliniques, sur un public donc plus large cette fois, permet officiellement l'enregistrement du vaccin qui sera destiné en priorité au personnel de santé et aux personnes à risque avant sa mise en circulation début 2021. Pour autant, le fait que Vladimir Poutine cite l'une de ses filles comme participante à l'expérience pour un résultat efficace, selon le président russe, tout cela n'estompe pas la question du respect des protocoles internationaux et le partage d'une documentation toujours en attente.
Claude Brouillot sur ce vaccin contre la Covid-19 qui se nomme Spoutnik en référence à la conquête spatiale. L'annonce de Vladimir Poutine tombe en tout cas alors qu'un conseil de défense vient de débuter à Brégançon sur cette question de la Covid-19. Les chiffres de la contamination repartent à la hausse en métropole mais aussi en Polynésie française. Une quarantaine de cas ont été détectés depuis samedi alors que la collectivité n'a connu qu'une soixantaine de malades entre les mois de mars et de juillet. Au total dans le monde, plus de 20 millions de personnes ont été touchées par le virus. Ce conseil de défense dont je vous parlais est en fait un double conseil. Le premier sujet traité ce matin par le chef de l'État et ses ministres à Brégançon est celui du Niger. Après la mort de 8 personnes, dont 6 humanitaires français de l'ONG Acted, tués dimanche dans la région de Kouré, à quelques kilomètres de la capitale Niamey. Une dizaine d'enquêteurs français partent d'ailleurs aujourd'hui pour le Niger, des enquêteurs de la DGSI, de la sous-direction antiterroriste et de la police scientifique et technique. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
C'est en rendant hommage à la mémoire des victimes de l'attaque que le chef de l'État a commencé ce conseil de défense.
Oui, je veux commencer ce conseil par une pensée pour leurs familles, leurs proches, eux-mêmes et pour tout ce qu'ils représentent de l'engagement de notre jeunesse, a déclaré Emmanuel Macron avant de qualifier cette attaque de manifestement terroriste, selon les mots du chef de l'État. Au-delà de l'enquête, le président de la République ajoute qu'il est important d'examiner les conséquences militaires ainsi que l'ensemble de nos dispositifs dans la région du Sahel, précise Emmanuel Macron. Hugo Bernalici est député de la France Insoumise du Nord. Il a réclamé ce matin sur France Info la tenue d'un débat à l'Assemblée nationale pour clarifier la situation dans la région et les objectifs de l'opération Barkhane.
En tout cas, on s'enlise. On le déplorait déjà l'année dernière. Souvenez-vous, on était une des rares forces politiques à dire « mais qu'est-ce qu'on fait là-bas » Est-ce que c'est pour y rester tout le temps ou est-ce qu'on s'organise et on regarde les conditions dans lesquelles on peut partir, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles la région peut-être peut redevenir stable et que les autorités locales puissent gérer elles-mêmes la sécurité des gens qui sont là, à la fois de leurs ressortissants, mais aussi des ONG, etc.
Bon. Vous réclamez toujours un débat sur le retrait de la force Barkhane du Sahel.
En tout cas, un débat sur ce qu'on y fait et les conditions dans lesquelles on peut intervenir. Parce que tout ça se fait par à-coups. Là, on a à nouveau un nouveau drame avec 6 Français qui sont morts sur place, en plus dans le cadre d'une ONG. Donc c'est en plus une association humanitaire qui se fait attaquer, ce qui rajoute caractère dégueulasse, je veux dire, de cette attaque. Et donc, il faut qu'on sorte un peu de cette politique par à-coup sur place et qu'on puisse avoir une vraie stratégie. Alors, on est confisqué de ce débat à l'Assemblée nationale. Le débat n'a pas lieu. Alors voilà, on fait des coups de menton des conseils de défense, on essaie de retrouver ceux qui ont commis cet acte de barbarie, et heureusement qu'on le fait, et j'espère qu'on les retrouvera et qu'on leur fera payer, mais il faut qu'on ait une discussion.
Hugo Bernalicis répondait aux questions de Neyla Latrousse et Julien Langlais sur France Info. En fin de ce conseil de défense, Emmanuel Macron a chargé le gouvernement d'organiser le retour des corps ainsi qu'un hommage pour les 6 victimes françaises tuées au Niger.
Explication de Sophie Delpont. Précisons qu'un autre humanitaire français a été tué hier, cette fois au Guatemala. Benoît Maria, le directeur de l'ONG Agronome et Vétérinaire Sans Frontières, est mort dans une attaque armée dans le nord-est du pays. Les raisons de cette attaque ne sont pas encore connues. L'opposante principale au président Loukachenko a fui la Biélorussie aujourd'hui. Svetlana Tikhanovskaya est arrivée en Lituanie. Elle conteste la réalité des résultats prononcés lors de l'élection présidentielle biélorusse. Le président sortant Alexandre Loukachenko a été réélu avec plus de 80% des voix lors d'un scrutin où les soupçons de fraude sont nombreux. Svetlana Tikhanovskaya a trouvé refuge à Vilnius, la Lituanie, un pays qui accueille traditionnellement l'opposition biélorusse et la société civile. Marielle Vituro.
Ce matin, le message du ministre lituanien des Affaires étrangères était laconique. Svetlana Tikhanovskaya est en sécurité, elle est en Lituanie. Mais il a rassuré, et le geste de l'État balte a été unanimement salué dans son pays et internationalement. Hier, le silence de la candidate de l'opposition après le dépôt de sa plainte a fortement inquiété à 200 km de Minsk. Son arrivée à Vilnius est logique. Depuis de longues années, la Lituanie a été et toujours le refuge de l'opposition biélorusse, souligne le politologue Andrzej Pukhto. En 2004, l'EHU, une université qui inquiétait le pouvoir de Loukachenko, s'est exilée à Vilnius. Depuis, une centaine d'associations et d'organisations s'y sont installées et travaillent avec l'opposition et la société civile. Elles bénéficient d'une liberté de parole et de subventions internationales, ce qui leur est refusé en Biélorussie. Dans une vidéo, Svetlana Tikhanovskaya affirme avoir pris la décision de partir de manière indépendante. Elle a annoncé être partie pour retrouver ses deux enfants qu'elle avait mis à l'abri avant le scrutin, en Lituanie donc. À Vilnius, la présidence et le ministère des Affaires étrangères affirment être en contact permanent avec elle. Pour l'instant, son lieu de résidence reste secret.
Précision de Marielle Vitur, notre correspondante depuis Vilnius en Lituanie. Un peu plus au sud de l'Europe, c'est entre la Grèce et la Turquie que le ton est en train de monter. Athènes accuse Ankara de menacer la paix en Méditerranée orientale. Le nœud du problème trouve son origine dans la recherche d'hydrocarbures par la Turquie près du Nil grec. Bonjour Nicolas Ballu.
Bonjour Maxime.
On assiste en ce moment à une phase où chaque pays est en train de placer ses pions, des navires sont en train de se positionner dans la région.
Oui, et la situation est de nouveau très tendue. Ce regain de tension arrive alors que la Turquie a envoyé un navire sismique de recherche d'hydrocarbures, l'Oruç Reis. Il est accompagné de plusieurs navires militaires. Et tout cela près de l'île grecque de Castelorizo. Si vous regardez sur une carte, vous voyez que cette île est particulièrement proche de la côte turque, à peine 7 km. Et aujourd'hui, la Grèce demande un sommet d'urgence de l'Union européenne sur la Turquie. La Grèce défendra sa souveraineté et ses droits souverains, affirmait hier le ministre grec des Affaires étrangères.
Et ce sont d'ailleurs les souverainetés maritimes aujourd'hui qui sont disputées.
Oui, elles se traduisent juridiquement par la notion de zone économique exclusive, fixée au début des années 80 à Montego Bay. Or, depuis 20 ans, les découvertes de champs gaziers se succèdent en Méditerranée orientale, dont les réserves potentielles sont régulièrement revues à la hausse. Bien sûr, tous les pays riverains sont intéressés, la Grèce, la Turquie, Chypre, Israël, l'Égypte notamment. Et la Turquie a multiplié les forages au nord de Chypre, par exemple, récemment. C'est illégal, disent de nombreux pays de la région. Il y a quelques mois, un accord turco-libyen liait une aide militaire au gouvernement de Tripoli à un agrandissement de l'espace maritime de la Turquie. Sauf que la nouvelle zone concerne également la Grèce, et l'Égypte. Ces deux pays ont donc signé, eux aussi, un accord maritime agrandissant leur zone économique exclusive. Il faudra donc négocier ou bien une décision d'un tribunal. En attendant, c'est l'escalade diplomatique et la logique militaire qui semblent être à l'œuvre.
Nicolas Ballu. Taïwan craint de devenir le prochain Hong Kong. C'est par ces mots que le ministre taïwanais des Affaires étrangères a averti le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar. C'est la première visite d'un haut responsable américain à Taïwan depuis plus de 40 ans. La répression de la dissidence à Hong Kong laisse craindre à l'île de Taïwan un sort similaire. Et quand on parle de répression, l'arrestation de 10 personnes pro-démocratie à Hong Kong hier en est l'illustration. Parmi elles, on retrouve la militante Agnès Cho ou encore le mania de la presse et figure critique de Pékin, Jimmy Lai. En réponse, les Hongkongais se sont rués sur les titres détenus par le patron de presse, notamment le tabloïd Apple Daily. Ils ont également fortement investi dans son groupe de presse, Florence de Changy.
Après avoir chuté suite à l'annonce de l'arrestation de Jimmy Lai lundi matin, le cours de l'action de son groupe de presse s'est fortement repris dès lundi après-midi, soutenu par une vague d'achats de solidarité, tant avec le groupe de presse populaire qu'avec son dirigeant, dont la témérité face à Pékin impressionne. Aujourd'hui, le cours de l'action a continué de flamber. Il avait gagné 1300% à la clôture de la bourse. Quant au journal, le Apple Daily, qui est principalement lu en ligne et habituellement imprimé environ à 70 000 exemplaires, il a été imprimé à 550 000 exemplaires aujourd'hui. Certains Hongkongais ont fait la queue à partir de 2 heures du matin pour être sûrs de pouvoir en acheter et certains en ont acheté des piles entières par simple geste de défiance à l'égard des autorités. Edward Chin, éditorialiste financier au Apple Daily, explique la réaction des Hongkongais.
Les gens croient qu'en défendant Apple Daily, ils ne défendent pas seulement un journal ou Jimmy Lai ou les quelques centaines d'employés. Leur action montre leur intention de vouloir participer. Ce sont les lecteurs tous ensemble qui prennent la défense de Hong Kong. De sorte qu'au cours de ces dernières 48 heures, nous avons accompli un petit miracle.
Aujourd'hui, la une du Apple Daily affirme en caractère rouge, en dessous de la photo de Jimmy Lai arrêté, Apple Daily va tenir bon.
Les explications à Hong Kong de la correspondante de France Culture, Florence de Changy. En France, le soulagement pour plusieurs milliers de personnes atteintes d'hyperthyroïdie. L'ancienne formule du Lévothyrox sera disponible jusqu'à la fin de l'année 2021. Sa distribution devait pourtant s'arrêter à la fin du mois de septembre. Plus de 3 millions de patients sont traités en France pour cette pathologie. Bonjour Hélène Malka.
Bonjour Maxime.
C'est une vraie victoire pour plusieurs associations qui réclamaient d'ailleurs cette prolongation.
Et oui, une victoire à une très bonne surprise selon les associations, car il y a encore un mois, elles n'y croyaient plus du tout. Selon elles, le ministère de la Santé qualifiait alors d'irrévocable la fin en septembre de l'ancienne formule du Lévothyrox. Parmi ces associations qui sont montées au créneau, il y a celle-ci, Vivre sans thyroïde, Béate Barthès et sa présidente.
Beaucoup de satisfaction parce que cela représente un énorme répit pour les patients encore sous cette ancienne formule qui avait vraiment beaucoup d'angoisse à l'approche de la date butoir de septembre.
Alors officiellement, la Direction Générale de la Santé explique ce changement notamment par la situation sur le front du Covid. On sait que de nombreux patients qui ont pris la nouvelle formule du Lévothyrox se sont plaints de maux de tête, d'insomnie, de vertiges. En juin dernier, 3000 d'entre eux avaient obtenu de la justice en appel la reconnaissance d'un manque d'information du fabricant concernant cette nouvelle formule, avec indemnisation de 1000 euros au titre du préjudice moral. Alors est-ce aussi cela qui a convaincu les autorités sanitaires françaises de maintenir sur le marché l'ancienne formule pour le moment, Béate Barthès?
Peut-être. C'est sûr que ça fait deux décisions coup à coup en faveur des patients, alors que ça fait 3 ans qu'on se bat et qu'on a commencé à être un peu épuisé.
Au premier trimestre 2020, environ 95 000 patients étaient encore traités avec l'ancienne formule du Lévothyrox, selon le ministère de la Santé.
Explication d'Ilan Malka. La mort de Jean Gandois, ancien industriel et dirigeant du patronat français. Il est décédé le 7 août à l'âge de 90 ans, on l'apprend aujourd'hui. Jean Gandois avait démissionné de la présidence du Conseil national du patronat français en 1997, c'est l'ancêtre du MEDEF. Il protestait alors contre la réforme des 35 heures. C'est le dernier jour des soldes d'été ce mardi et c'est un bilan plutôt mitigé pour les commerçants au terme de cette période de rabais. C'est ce qu'affirme le ministre des petites et moyennes entreprises Alain Griset chez nos confrères de RTL ce matin. Les soldes qui ont été décalés de 3 semaines cette année en raison de la pandémie de Covid-19. Le temps de ce mardi toujours caniculaire avec 15 départements en vigilance rouge. 54 en alerte orange. Le ciel restera instable, notamment sur l'ouest du pays. Un risque d'orage un peu partout, sauf sur le pourtour méditerranéen. Comptez 24 degrés à Brest, 32 à Lille, 34 à Strasbourg, 35 à Paris et Lyon. Ce journal a été préparé et réalisé par Brice Garcia.